nous allons parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à regarder avec moi Philippiens chapitre 2 et verset 5. Philippiens chapitre 2 et verset 5. En fait, nous lisons dans la traduction de Louis II, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais qu'on puisse, après avoir lu la version de Louis II, nous tourner dans la version de la parole vivante, et vous pouvez regarder ici sur l'écran la version élargi qui dit « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre, bon, je vais lire comme ça, et que votre attitude envers les autres possède votre vie en lui, prenez modèle sur Jésus-Christ, ayant en vous les pensées et les sentiments qu'il animait jadis. Le Christ dès l'origine fut d'essence divine, un avec le Dieu Saint, il avait sa nature, sa gloire, sa mesure, ses attributs divins, loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. Il s'abaissa lui-même avec humilité, le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence dans son obéissance. Il alla jusqu'au bout. » Prions s'il vous plaît, notre Père, ce matin, nous te demandons instamment grâce et aussi ta bénédiction, sachant que ce message a une telle profondeur que seul ton Saint-Esprit peut nous le faire comprendre et aussi nous permettre de le vivre. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier, renouveler, de nous garder en Christ et d'être attentifs à ta parole ce matin. Nous t'en prions dans le bon nom de Christ. Amen. Si on prenait le temps de regarder les premiers versets du chapitre 2, l'apôtre Paul, ici, Philippien, c'est une église, l'église de Philippe est une église modèle, une église assez extraordinaire. Mais en fait, ils ont un petit problème. Ils ont un problème, semble-t-il, de manque d'unité. Ils ont beaucoup de qualités, mais il y a, semble-t-il, une faille. Il y a un manque d'unité au sein de l'assemblée. Et l'apôtre Paul donne, on n'a pas le temps de le voir ce matin, il donne en fait l'équation de l'unité, c'est que l'amour plus la vérité plus l'humilité égale l'unité. L'unité a pour équation l'amour, la vérité et l'humilité. En fait, l'apôtre Paul, pour enfoncer le clou, afin que ses lecteurs ou auditeurs se mettent à pratiquer l'unité, il donne l'exemple de Jésus-Christ dans son incarnation comme modèle d'humilité. Et ce matin, nous allons regarder ensemble que signifie pour nous l'incarnation de Jésus-Christ et prendre exemple sur la personne de Jésus-Christ. En fait, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus, qui par humilité s'est incarné, avait aussi cette même humilité dans sa vie sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ était dépendant de Dieu le Père. Il a dit qu'il voulait faire la volonté de Dieu le Père, que c'est Dieu le Père qui l'avait envoyé et qui dépendait de Dieu le Père, qui ne disait que ce que Dieu le Père voulait qu'il dise. Il ne faisait que ce que Dieu le Père voulait qu'il fasse. Au travers de sa vie, il a montré un esprit d'humilité parfait, d'abnégation, de don de soi, de dévouement, de soumission et d'obéissance. En fait, le même esprit qui l'a poussé à descendre du ciel est ce même esprit qui l'a animé durant toute sa vie sur terre. Alors, on pourrait prendre les premiers versets, notamment le verset 5, comme application de ce qu'est l'incarnation, mais on va respecter l'ordre chronologique du passage ici, où il est question d'un appel à l'unité, pour commencer, un appel à l'unité à l'exemple de Jésus-Christ, et finalement voir les différents abaissements de notre Seigneur qui sont mentionnés dans ce texte ici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez bien ici, là c'est vraiment un verbe à l'impératif. C'est un ordre, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif pour nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit « ayez en vous » et cela s'adresse à toute l'Église. Ce n'est pas simplement une personne ou deux dans l'Église qui devrait pratiquer ces sentiments qui sont en Jésus-Christ. C'est vraiment l'ensemble de l'Église, les sentiments ou pensées qui étaient en Jésus-Christ, notre modèle d'humilité par incarnation. En fait, ici, on va commencer donc dans l'ordre chronologique du texte ici, l'appel est lancé à l'unité, mais c'est à l'ensemble de l'Église. L'unité dépend de tous et chacun, de la volonté de tous et chacun, d'avoir dans son cœur des sentiments d'humilité véritables à l'exemple de Jésus-Christ. Donc, le croyant a pour devoir, quelque part, de se placer en Christ avec humilité pour refléter cette humilité au sein du corps de Christ, l'Assemblée, et de vivre cette unité dans l'humilité. En fait, si nous appelons le Seigneur Jésus-Christ Seigneur et Maître, de même que le Seigneur nous a laissé ses traces d'humilité, d'abnégation, de don de soi, de volonté entièrement soumise à Dieu le Père jusqu'à la croix, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, nous devrions aussi suivre notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de la même façon que le Seigneur nous a laissé cet exemple de soumission parfaite, de nous soumettre à Jésus-Christ et de le suivre. Reconnaissons que dans nos vies, nous sommes tous et chacun mus d'une certaine volonté, plus ou moins forte. Est-ce que nous sommes capables de nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ et d'accepter de l'avoir réellement pour maître? En fait, est-ce qu'on peut échapper à une vie d'Église humble? Est-ce que notre vie d'Église est un esprit d'humilité, de douceur, de paix? Est-ce qu'on vit dans la paix les uns avec les autres? Est-ce qu'on reste humble? Est-ce qu'on pourrait avoir tendance à se comparer les uns aux autres et puis à s'évaluer les uns pour les autres? Je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, ça pourrait être le cas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu d'abord veut qu'on s'évalue par rapport à Jésus-Christ, non pas par rapport aux autres, mais par rapport au Seigneur Jésus-Christ et à regarder à ce modèle parfait. Il y a des modèles dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul en est un et il dit lui-même qu'il est un modèle. Quelle assurance un jour dans sa vie de pouvoir dire « Suivez-moi parce que dans tel domaine de ma vie, je suis devenu un modèle. » Je crois que ça demande beaucoup d'humilité de dire aux autres « Suivez-moi parce que dans tel domaine, je suis devenu un modèle. » Pour le dire, il faut vraiment l'être. Et donc s'assurer qu'on est en train vraiment de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cet appel à l'unité dit ceci, que le Seigneur qui existait en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. On va juste regarder un instant ce que signifie existant en forme de Dieu. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu de toute éternité. Avant, pendant et après son incarnation. Avant l'incarnation, dans la gloire de Dieu le Père, il était face à face avec Dieu le Père. Il est face à face avec Dieu le Père. Sur cette terre, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas cessé d'être le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais par son humilité ou humiliation, il a accepté comme une limitation de ses attributs en se faisant homme, tout en étant toujours parfaitement Dieu. C'est par essence sa nature, n'est-ce pas? Et il est inaltérable, inaliénable, immuable. Et on voit le terme grec ici, existant, qui souligne cette naissance, son essence de sa nature, qui ne peut pas changer. En fait, Christ, c'est un mystère. Et pour certaines religions, c'est incompréhensible que Dieu se soit fait homme. Et pourtant, Dieu s'est fait homme parce qu'il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et le Fils a accepté de s'incarner selon la volonté de Dieu le Père. En forme de Dieu, le grec c'est morphée ici, c'est une forme qui désigne la manifestation extérieure d'une réalité intérieure, c'est-à-dire que Jésus-Christ reste Dieu. Il a toujours été égal à Dieu. Et même s'il a pris la forme d'un homme, il était toujours en forme de Dieu. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Mais Christ a toujours été et pleinement divin. Et autant lui est divin, autant nous, nous sommes humains. Et puis limités, on le sait certainement. Maintenant, peut-être faisons une première application. Si Jésus-Christ s'est abaissé pour devenir un homme, si Dieu s'est incarné pour devenir un homme, cela veut dire qu'il s'est beaucoup humilié quelque part, le Seigneur. Est-ce que nous, nous pouvons ne pas nous humilier? Est-ce que si le Seigneur nous a donné cet exemple de se faire homme et de vivre parmi les hommes et de s'être humilié pour cela, est-ce que nous, vivant par les hommes, on ne doit pas aussi apprendre à s'humilier? Je ne sais pas vous, mais je pense que apprendre à s'humilier n'est pas toujours évident. Et j'ai pensé ce matin, en préparant ce message, en fait, je me suis dit, mais c'est vrai, fêter Noël, c'est fêter l'incarnation de Jésus-Christ, c'est fêter sa venue sur la terre. Est-ce qu'une bonne façon de fêter Noël, ce ne serait pas nous de nous humilier en tant qu'être humain et de regarder à Dieu? Et peut-être en cette fin d'année, de faire un bilan et puis de demander pardon à Dieu, demander peut-être pardon aux autres pour nos erreurs, nos fautes, nos péchés, de s'humilier devant Dieu, de le rechercher et de chercher sa face, afin de se perdre en Dieu et d'être dans sa présence. Le premier abaissement ici que l'on voit dans le texte ici, je vous ai déjà donné le titre du message, après avoir parlé de l'appel à l'unité, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Le premier abaissement ici se trouve dans le verset 6, il n'a point regarder son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Peut-être que ces mots sont un petit peu difficiles à mettre ensemble pour les comprendre, mais une autre traduction le traduit comme ça, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Imaginez que vous êtes au travail et qu'il y a une promotion et que vous avez le même poste avec un collègue et que vous vous sentez complètement en égalité avec lui. Lui a une promotion et vous, vous avez non pas une promotion, mais on vous demande de faire quelque chose qui ne semble pas être lié à votre position, votre fonction, vos capacités ou vos diplômes. Comment allez-vous réagir? C'est humiliant de quitter sa position quelque part. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un poste élevé et on vous a prié d'avoir un poste un peu moins élevé. Ça arrive parfois à certaines personnes qui, proches de la retraite, n'est-ce pas, plus ou moins l'entreprise demande rétrogression de la position, peut-être avec un même salaire, mais il y a des gens qui souffrent énormément de ne plus avoir la même position. Là, ici, le texte dit que le Seigneur n'a pas regardé à Dieu le Père en disant « Mais moi, je suis Dieu le Fils, nous sommes égaux. Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais descendre sur la terre et aller vivre comme un homme parmi les hommes ?» Sachant qu'il savait parfaitement ce qui allait lui arriver. Il n'a pas discuté, il n'a pas dit « Mais je suis Dieu, je veux garder tous mes privilèges comme Dieu le Père. » Non, il y a eu un dialogue entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et ils étaient parfaitement unis, parfaitement en accord, que Dieu le Père allait se séparer de Dieu le Fils pendant un certain temps, que Dieu le Fils allait se séparer de Dieu le Père pendant un certain temps, qu'il allait abandonner tous les privilèges de la gloire céleste, l'adoration des myriades, des milliards d'anges autour de lui, sur le trône de la gloire de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Il a décidé de descendre sur la terre et de se faire un simple homme. Il est clair que nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'il a décidé de quitter cette égalité céleste qu'il a perdu son égalité avec Dieu ou qu'il a perdu sa divinité. Mais il a revêtu la forme d'un homme. Il a donc accepté de s'incarner et quelque part d'abandonner ou de diminuer son égalité absolue avec Dieu le Père. En fait, dans le ciel, Jésus-Christ avait toute la gloire. Il a décidé de quitter ses privilèges de gloire céleste pour s'incarner dans un homme. Et je crois qu'il y a une application relativement simple à faire. Est-ce que pour nous humilier, nous, en tant que croyants, nous sommes prêts à abandonner nos privilèges? Vous savez, tout le monde dans la vie s'accroche à plus ou moins de choses. Et si Dieu nous enlève nos privilèges, est-ce que nous allons garder la communion avec Dieu? Si Dieu nous enlève la santé, est-ce que nous allons garder la communion avec Dieu? Si Dieu permet qu'on soit au chômage, est-ce qu'on va garder la communion avec Dieu? Si Dieu permet qu'il y ait même une perte de salaire, est-ce qu'on va garder la communion avec Dieu? Vous avez compris l'idée ici. Est-ce que nos privilèges en tant qu'enfants de Dieu choyés dans certains domaines, si nous les perdons, peut-être la liberté de venir au culte le dimanche matin. Parfois, les croyants dans l'Occident ont difficulté à être à l'heure ou venir au culte. Mais il y a des pays où il n'y a aucune liberté pour venir au culte. Et ces gens-là sont prisonniers chez eux ou prisonniers dans des vraies prisons pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a des nouvelles de la Chine, on a des nouvelles de l'Inde, on a des nouvelles de l'Érythrée, on a des nouvelles d'un peu partout dans le monde, ou en Iran, ou en Irak, où les chrétiens souffrent et ils sont prêts à mourir pour le Seigneur. Ils ont perdu leurs privilèges, ils ont été prêts à se dépouiller pour suivre le témoignage de Jésus-Christ. C'est une première application qu'on aimerait faire ce matin. Le deuxième abaissement ici, il est écrit, il s'est dépouillé lui-même. Littéralement, il s'abaissa lui-même avec humilité. L'idée ici, dans le mot dépouiller, c'est se vider complètement. Est-ce que Dieu a pu se vider complètement dans une certaine mesure? Oui, en tout cas, il a quitté le ciel et il a pris la forme d'un homme. J'ai écrit une liste ici que j'aimerais vous donner, partager. Il s'est temporairement dévêtu de sa gloire divine, on est d'accord? Il s'est soumis volontairement et entièrement à Dieu le Père. Il a dit ma nourriture est de faire la volonté de Dieu le Père. À un moment donné, il est même écrit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a accepté de limiter tous ses attributs divins sans pour cela cesser d'être omniscient, omniprésent, omnipotent et immuable. Il s'est dépouillé lui-même de ses richesses célestes. Et j'ai pensé à un verset qui est connu, mais peut-être qu'on doit relire ce matin de Corinthiens 8:9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il s'est dépouillé lui-même de sa relation unique, intime et face à face avec son Père céleste, même jusqu'au point d'être abandonné par lui. Vous savez qu'à la croix, Jésus-Christ a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dans le mot grec ici, c'est le mot pros qui est face à face. Là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est comme si Dieu le Père était face à face avec Dieu le Fils face à face avec Dieu le Père, dans une communion, une relation intime où l'un ne peut pas faire quelque chose sans l'autre, ils sont unis. Ils sont ensemble, c'est la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et pour Dieu le Père, de voir son Fils quitter les cieux, ça doit être quelque chose de terrible. Parfois, nos enfants nous quittent, n'est-ce pas? Et ça doit arriver un jour. Ce n'est pas facile de voir ses enfants quitter le foyer. Et quand ils sont loin, encore plus. Et là, Dieu a vu son Fils descendre sur la terre et puis se faire homme parmi les hommes, qui plus est, après être persécuté, blasphémé, rejeté. La colère de Dieu aurait pu tomber sur cette terre. Le monde lui appartient. Et Dieu le Père a accepté cela, que Dieu le Fils s'humilie pour s'incarner afin de faire connaître l'amour du Père. C'est extraordinaire cela. C'est vrai que Jésus-Christ sur la terre a eu ses souffrances, mais peut-être on oublie de penser à toutes les souffrances de Dieu le Père, de la séparation qu'il avait avec Dieu le Fils. Tout en étant omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais il faut comprendre quand même que Dieu le Père avait des sentiments de voir son Fils quitter le ciel, parce que Dieu le Fils s'est incarné et il n'était plus quelque part au ciel, tout en étant en tant qu'homme omniprésent, omniscient, omnipotent. J'aimerais dire aussi, c'est un exemple pour nous de la façon de s'humilier. Ce n'est pas facile de s'humilier, je pense, perdre ses privilèges. Une deuxième façon de s'humilier, c'est être volontaire. Il n'y a pas beaucoup de volontaires pour s'humilier. On n'entend pas souvent, je dis cela avec grâce, comprenez, je ne veux pas provoquer un blâme sur nos politiques, mais c'est rare d'entendre nos politiques dire « oui, c'est vrai, c'est difficile de gérer un pays ». Nous sommes limités, nous faisons des erreurs. Pardonnez nos erreurs. Vous avez entendu souvent cela, la bouche des politiques ? À partir du moment où un politique dirait « nous faisons des erreurs », il avouerait sa faiblesse. Et avouer sa faiblesse, mais c'est terrible cela, avouer une faiblesse, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez déjà des collègues de travail qui viennent nous voir « écoutez, je suis désolé, là, je me suis trompé, j'ai vraiment fait une erreur ». C'est rare d'entendre quelqu'un qui dit « oui, j'ai fait des erreurs ». Pardonnez-moi, je me suis trompé, j'ai tort. Vous avez entendu souvent dire ça, même dans le foyer, même les enfants, on doit leur apprendre à dire j'ai tort, et les parents doivent aussi, devant les enfants, apprendre à dire j'ai tort quand ils font des erreurs. Mais on ne l'entend pas souvent, parce que c'est l'inverse de l'orgueil. L'orgueil se cache, l'orgueil se justifie, l'orgueil a plein de prétentions et de suffisances, et c'est notre nature pécheresse, notre nature intrinsèque. Et nous devons apprendre à nous humilier et à reconnaître que non, ce n'est pas la voie de la sagesse, c'est la voie de l'orgueil. Mais la voie de Dieu, c'est la voie de l'humilité. Donc nous devons volontairement nous humilier, mais nous avons tendance à ne pas vouloir nous humilier et avoir des masques ou des façades autres que ce que nous sommes, parce que nous voulons être autre chose que ce que nous sommes. Nous voulons prétendre être autrement que ce que nous sommes vraiment. Mais quand on est humble, on devient transparent et on est obligé de se voir tel que Dieu nous voit et de s'humilier encore plus. Et plus Dieu nous voit, et plus on se laisse regarder par Dieu, et plus on est obligé de s'humilier parce qu'on sait que rien n'échappe au regard de Dieu. Et quelque part, c'est une bonne chose pour nous. Il n'y a pas plus de bienfait que le brisement intérieur, que l'humilité. L'orgueil, c'est une haute estime de soi. D'ailleurs, c'est un mensonge, l'orgueil. C'est prétendre être quelque chose qu'on n'est pas. C'est l'orgueil de la vie, l'orgueil de ce qu'on est, de ce qu'on possède, de ce qu'on veut faire. C'est souvent et c'est toujours un piège, l'orgueil. Oui, la jalousie aussi. Ça peut être ça. Alors, juste une application pratique. Est-ce que nous sommes des volontaires à nous humilier ? Est-ce que nous sommes promptes à nous humilier ? Ou est-ce que nous nous justifions dans des irritations, des conflits, où est-ce que nous faisons notre mea culpa dans le sens vraiment réel. Et puis, une façon avec laquelle le Seigneur a été volontairement humble, c'est qu'il est dépendu de Dieu le Père. Est-ce que nous sommes capables, quelque part dans nos vies, de nous humilier pour dépendre de Dieu le Père, d'être dépendants, de soumettre notre volonté à Dieu le Père, non pas tout à fait ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est écrit donc ici, en prenant, ça va être le troisième abaissement, il est écrit ici, en prenant une forme de serviteur. Non seulement il s'est fait homme, mais il s'est fait serviteur. Et ici, le terme pourrait être traduit par esclave. Laissez-moi décrire cela un petit peu dans juste quelques phrases pour ne pas être trop long, mais Jésus, à part ses vêtements, la Bible dit qu'il ne possédait rien. Le Fils de l'homme n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Il dépendait ainsi entièrement de Dieu le Père. Le roi des rois est devenu le serviteur des serviteurs. Jésus est venu aussi, en tant que serviteur, porter les fardeaux des autres, notamment le péché des hommes. Il est écrit que c'est sur lui qu'est tombée l'iniquité de nous tous, en Ésaïe 53. Jésus est venu aussi accomplir la volonté de son Père et servir son peuple. Jésus a dit qu'il est venu pour servir et non pas pour être servi. Vous savez, ça fait toute une différence quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est prompt à servir, et quelqu'un qui désire toujours être servi. Pour servir, il faut être humble parce qu'il faut considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Pour vouloir être servi, ça veut dire que il faut dire d'abord, moi d'abord, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Il était riche dans le ciel, il était extrêmement riche sur la terre avec une communion avec Dieu le Père extraordinaire. Son temps était compté, et pourtant, combien il s'est donné, sans compter pour les autres. Un esprit de service. Jésus, en tant que serviteur, a montré constamment la voie de l'humilité. Et même lorsqu'il a voulu laver les pieds de ses disciples, Pierre a dit « Non, surtout pas moi, n'est-ce pas ?» Et Jésus a dit « Ah, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas une part avec moi. » Qu'est-ce qu'il voulait apprendre à Pierre ? C'est par l'humilité qu'est le chemin de le vrai serviteur. Jésus lui-même a montré à ses disciples, a pris soin de ses disciples en leur lavant les pieds. Il a même dit « Celui qui voudrait être le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Donc c'est quand on s'abaisse qu'on est élevé devant Dieu. C'est l'inverse de ce monde. Les stars aiment flasher, n'est-ce pas ? Il y a des... c'est connu, des chanteurs, sans exemple précis, hein, qui ont du mal à arrêter de leur carrière parce qu'ils sont tellement adulés. 10 000, 20 000, 100 000 personnes qui le regardent en train de chanter, les stars des stars. Ils ne sont pas capables, c'est comme une drogue pour eux. Ils sont tellement adulés. Alors que le Seigneur nous dit de nous abaisser, d'être serviteurs. Une façon de nous abaisser et d'être serviteur, c'est tout d'abord de comprendre qu'on ne s'appartient pas. La Bible dit que qu'on ne s'appartient pas, que notre esprit appartient à Christ. En fait, le croyant, il faut qu'à un moment donné, il dise « Seigneur, je te donne ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit ne m'appartiennent pas. C'est, je ne suis pas propriétaire de ma vie. » Bien sûr, on doit prendre soin de sa vie, mais quelque part, on ne s'appartient pas. Donc, si je ne m'appartiens pas, j'appartiens à un autre. Alors, il vaut mieux appartenir à Dieu qu'au diable, n'est-ce pas ? Mais à partir du moment où je suis croyant, je deviens serviteur de Christ. Est-ce que vraiment, j'ai compris que cette vie sur cette terre m'appelle à un service envers les autres ? Je suis appelé à servir, à aimer les autres, à m'oublier moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On connaît l'histoire, n'est-ce pas, de celui qui est trouvé au bord du chemin, et le bon samaritain. Et il y a des gens pourtant religieux qui devraient apprendre à aimer. Ils ne s'arrêtent même pas, ils ne servent pas, ils n'aiment pas, ils n'aident pas, ils ne soignent pas. Et puis c'est un samaritain, pourtant rejeté parmi les juifs, qui lui arrive et a un côté humain qui fait qu'il aime son frère, son prochain. Je pense que je vais vous dire quelque chose ce matin qui n'est pas facile à entendre peut-être, mais des fois le croyant qui a tellement de privilèges en Christ, il a tendance à vouloir se faire servir et même à demander à Dieu de le servir pour satisfaire son moi. C'est subtil cela. Est-ce qu'on est capable de s'oublier pour servir les autres, mais vraiment les servir en Christ ? C'est-à-dire s'oublier soi-même, être un vrai serviteur. Un quatrième abaissement, vous avez compris, il y a dans ce texte plusieurs abaissements qui sont comme, je trouve, comme, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il me semble dans ce texte qu'il y a comme des étapes où Christ a dû descendre une première marche du ciel, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à la croix. Ça va être la dernière marche de l'humiliation. En devenant semblable aux hommes, il était un homme comme les autres. Il a eu faim, il a eu soif. Il a été triste, il a ressenti la douleur, il a pleuré quand Lazare est mort, il a pleuré. Il était fatigué, il a eu aussi des moments de faiblesse physique, il a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses et même il a été soumis à la mort. Imaginez, Dieu qui se soumet en se revêtant la forme d'un homme et puis à être prêt à mourir. On n'est pas un vrai homme si on ne meurt pas. Si Christ n'avait pas été pas mort, il n'aurait pas été un vrai homme. Un vrai homme, c'est celui qui meurt sur la terre. Christ a été tenté, fatigué comme nous. Il s'est incarné et humilié jusqu'à se faire homme. À combien plus forte raison devrais-je apprendre à m'humilier ? Puis, peut-être dire ceci, il a paru comme un vrai homme. Je l'ai déjà mentionné, c'est le cinquième abaissement. Ici, il a été vu comme un homme. La preuve, c'est que les hommes l'ont lapidé, l'ont blasphémé. Si les hommes avaient réalisé qu'il était le Fils de Dieu, ils auraient eu la crainte. Quand il était à la croix, les hommes se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de cette croix, sauve-toi toi-même. Et quand le centenier a vu la façon avec laquelle Christ est mort, il a dit, c'est assurément cet homme était le Fils de Dieu. C'était un vrai homme qui a pu, par ses souffrances, s'identifier avec les souffrances des autres. Il avait compassion des malades, il avait compassion de ceux qui étaient possédés, il avait compassion de ceux qui étaient égarés. Puis, ça me fait penser à quelque chose. Notre identification, elle est en Christ, on est quelque part de nature spirituelle et céleste, mais on est quand même beaucoup humain dans nos vies, non ? Vous ne trouvez pas ? Combien de limites nous avons en tant qu'humains ? On voudrait spiritualiser notre corps pratiquement, être déjà au ciel, n'est-ce pas ? Ne plus ressentir la fatigue, ne plus avoir de limites physiques et intellectuelles et mentales et spirituelles. On voudrait déjà vivre au ciel parce que c'est la nouvelle nature que Dieu nous a donnée, cette espérance vivante. Mais il faut reconnaître qu'on est bien humain, n'est-ce pas ? On est bien humain dans notre vie, on est bien limité. Et j'aimerais que l'on se pose une question ce matin, puisqu'on parle de l'incarnation de Jésus, qui volontairement s'est limité dans une certaine mesure, puis a montré combien il était humain parmi les hommes. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, croyants, régénérés, nous gardons un côté humain pour compatir avec ceux qui nous entourent et qui souffrent ? Est-ce qu'on prend le temps de voir ceux qui nous entourent, pas simplement comme des gens, oui, ils sont en route pour l'enfer, il faut que je leur parle du Seigneur, mais est-ce qu'on a plein d'amour pour eux ? Est-ce que de façon pratique, on montre de l'amour envers notre voisin, notre collègue de travail, les gens que les commerçants chez qui nous allons ? Est-ce que nous cherchons leur bien ? Est-ce qu'ils voient vraiment que nous sommes intéressés à eux, que nous avons de l'amour pour eux ? Est-ce que nous avons de l'amour ? Enfin, il y a plusieurs exemples qui viennent à l'esprit, mais des fois, nous avons tendance à juger les inconvertis. Oh, comment ils se comportent, mais dans leur peine et leur souffrance, la perte d'un être cher, est-ce que nous sommes présents ? Peu importe ce qui est leur croyance, mais est-ce que nous montrons que nous sommes là ? Parce qu'ils ont besoin de consolation et ils ont besoin de se sentir aimés. Un sixième abaissement, c'est qu'il s'est humilié lui-même. On pourrait dire que, littéralement, il humilia son âme, on pourrait traduire comme cela. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il s'est abaissé non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Parce qu'en acceptant de descendre du ciel, il a accepté de se soumettre à Dieu, il s'est humilié devant Dieu, le Père. C'est vrai ce que je dis, il s'est humilié devant Dieu, le Père, Dieu, le Fils. Et puis il s'est humilié devant les hommes. Et à combien ? Vous vous rendez compte ? Quand on a arrêté Jésus, on a commencé à lui tirer la barbe. On lui a mis une couronne d'épines. On s'est moqué de lui alors qu'il était Dieu. Et puis finalement, il a été non seulement arrêté, il a eu un procès des plus injustes. Ça a été le procès le plus injuste qu'il ait jamais eu sur la terre. Que des mensonges, des calomnies, des médisances. Puis il a été crucifié au rang des malfaiteurs. Il a subi moquerie, fausse accusation, humiliation physique. Il s'est vraiment humilié, le Seigneur. Il s'est humilié. J'aimerais vous poser une question en application de cela. Est-ce que nous sommes aussi capables de nous humilier face à l'injustice et à accepter de subir l'injustice ? Peut-être en tant que croyants, nous subissons la persécution, c'est possible. Et nous pouvons aussi subir l'injustice dans des situations de vie. Mais Seigneur, où es-tu ? Pourquoi tu permets cette injustice dans ma vie ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Comment est-ce qu'on peut réagir face à cela ? Eh bien, c'est de penser à notre Seigneur Jésus. Il y a des moments dans la vie où le seul exemple qui peut nous satisfaire, pour nous consoler et nous amener une vérité profonde à nos vies pour nous consoler, c'est la personne de Jésus-Christ, qui lui s'est humilié, lui a subi vraiment des injustices. Comment a-t-il réagi ? Il a fait descendre le feu du ciel, n'est-ce pas ? Comme les disciples voulaient. Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, il leur a dit. Vous voulez faire descendre le feu du ciel ? Mais vous ne vous rendez pas compte. Dieu est amour. Ah, c'est vrai qu'un jour, sa colère et sa vengeance seront là. Mais Dieu n'est pas prompt à la colère, n'est pas prompt à la vengeance. Christ était comme un agneau doux, humble, qu'on a amené à la boucherie, sans parole, sans colère contre ses bourreaux. Et même quand il était crucifié avec les deux brigands ont commencé à se moquer de lui. Et puis un des deux s'est tourné vers Jésus. Elle dit, souviens-toi de moi lorsque tu iras dans ton règne. Après s'être moqué de Jésus, Et il lui a dit, Jésus, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est bouleversant. Au moment de sa souffrance extrême, à la croix, dans une souffrance qui est une des plus atroces qui existe, la crucifixion, il a pu pardonner à celui-là même qui se moquait de lui et le sauver pour l'amener avec lui au ciel, au paradis. Quelle humilité dans sa vie. Un septième abaissement qu'on va regarder, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Non seulement le Seigneur était prêt à mourir, mais il était prêt à mourir pour faire la volonté de Dieu le Père et pour être crucifié. Puis moi, ça m'interpelle et ça me dit, mais dans quelle mesure est-ce que je suis prêt à souffrir pour le Seigneur dans la soumission à Dieu le Père? Je ne parle pas des souffrances dues à notre péché, au fait qu'on pêche puis on souffre Dieu à cause de notre péché. Je pense des souffrances à cause du fait qu'on se soumet à Dieu, qu'on marche pour lui. Il y a vraiment des souffrances possibles dues à la persécution, mais dans quelle mesure est-ce que je suis prêt à, peut-être pas à mourir physiquement, quoique peut-être le Seigneur peut nous demander, mais à mourir à moi-même, et puis à m'humilier, et puis peut-être à paraître devant les autres rien, jusqu'à ce que Dieu établisse justice. Et enfin, un deuxième point, on va terminer avec cela, c'est le huitième abaissement. Il est écrit, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix, la mort infâme d'un criminel en croix. Jésus, dans cette injustice incroyable que les hommes l'ont fait subir, a été crucifié au nom des malfaiteurs. Dieu au nom des malfaiteurs. Est-ce que Dieu n'est pas critiqué, notre Dieu parfois est mis au nombre des menteurs ou des malfaiteurs? Ça n'a pas changé cela, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Jésus-Christ encore serait crucifié à la croix et serait mis au nombre des malfaiteurs. Dans le plan parfait de Dieu, Christ devait être crucifié afin de nous racheter de notre nature déchue, pécheresse et condamnée. Et c'est par ses meurtrissures, dit la Bible, que nous sommes guéris. Lui a souffert afin que nous soyons guéris. Il a souffert la croix afin que nous soyons rachetés, pardonnés, purifiés, couverts par son sang de nos péchés qui nous entraînaient loin de lui en enfer. Une dernière question, bien-aimés. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêt à souffrir pour lui en vous humiliant? Est-ce que vous pouvez l'aimer parce qu'il a souffert pour vous? Dans quelle mesure nous l'aimons en retour? Il nous a aimés le premier et nous, dans quelle mesure nous l'aimons en retour? Alors, une façon de vivre Noël, je termine avec cela, c'est peut-être, en regardant l'incarnation de Jésus-Christ, de nous humilier, dire « Seigneur, oui, toi t'es descendu du ciel. » Il y a 8 abaissements qu'on a vus. C'est comme 8 marches, il me semble, de l'humiliation, de l'humilité de Christ qui descend du ciel, 8 marches jusqu'à la croix, jusqu'à la croix du calvaire. Est-ce que nous pouvons échapper à cette humiliation? Je pense que Christ nous a donné l'exemple. Mais nous avons lu, et j'ai lu consciemment, exprès, volontairement, les versets 9 à 11 qui montrent la gloire de Christ. Christ est humilié et ensuite il a été glorifié. Quelqu'un a dit, je crois que c'est un auteur, en tout cas dans un livre qui s'appelle La Croix du Calvaire, il dit ceci, dans le royaume des cieux, la seule marche d'honneur qui existe, c'est l'humilité. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous confessons notre besoin de nous humilier. Nous pouvons même confesser notre orgueil, notre résistance, notre moi, notre propre justice, notre colère. Et nous avons besoin, Seigneur, d'apprendre à vivre pour toi, à nous humilier, peut-être à perdre les privilèges pour te servir, peut-être à savoir souffrir l'injustice en laissant Christ et le parfum de la bonne odeur de Christ se répandre autour de nous. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin. Tu t'es abaissé tu t'es humilié afin d'être glorifié. Ô Père éternel, je te prie que nos vies te glorifient en Jésus-Christ et que nous puissions être assez humbles pour donner toute la place au Seigneur et le glorifier, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.